le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. Comment voulez-vous que le citoyen ordinaire, peu ou mal informé, fasse confiance dans la science, la médecine, les savants et ceux qui ont en charge la santé publique ? Même quand ils sont vaccinés, ces gens-là ne font aucune confiance dans la parole des gens qui les représentent. Quelles sont les informations qui parviennent aux gens, de façon très parcellaire d'ailleurs ? 40 ans de capitalisme libéral, débridé, de recherche forcenée du profit, de soumission des chercheurs, de la médecine, des hôpitaux aux règles du marché, ça laisse des traces. C'est pas les médias qui vont débrouiller ce truc-là. Les médias sont d'une médiocrité quand ils ne sont pas malhonnêtes, ils sont extrêmement médiocres. Tout ça ébranle la confiance de beaucoup de contemporains dans la science et les progrès qu'on peut en attendre. C'est un recul de la raison.
Il faut bien dire qu'avec la grande bouillasse anti-vax, anti-pass, on entend encore plus de bêtises que d'habitude. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off avec les copains profs d'histoire géo et leur sélection d'articles du monde diplomatique autour de cette épidémie de Covid que depuis un an et demi, vous aurez remarqué, nous n'avons quasiment pas commenté. Dès le premier confinement, nous avons pris le parti de ne pas évoquer cette situation sanitaire et ce qu'elle engendre, puisque nous ne sommes ni médecins, ni épidémiologistes, et quand on n'a rien à dire d'intelligent, on se tait et on s'abstient de donner ces petits ressentis qui ne font qu'alimenter l'hystérie générale. Or, on a encore vécu un été philosophiquement et politiquement très pénible à patauger dans la bouillasse anti-pass anti-vax qui sont deux sujets différents. Il y a eu ces manifs du samedi, un abracadabrantesque rassemblement de carpes et de lapins, dominé par l'extrême droite, et où chacun est venu hurler sa petite rage sans rapport avec celle du voisin. Une bouillasse où se mélange une légitime colère contre le flicage QR code et les délires complotisto-pseudo-médicaux de gens qui n'ont jamais ouvert un livre de médecine, mais qui s'informent sur Facebook ou sur tartempion.com. À noter d'ailleurs qu'avec ces manifs estivales du samedi, les fascistes ont blousé la gauche. À gauche, on ne lutte pas en juillet-août. À gauche, la lutte sociale, c'est de septembre à juin. Ce qui a laissé un boulevard aux fachos qui ont surfé sur le pass sanitaire comme ils infestent les supporters de foot. Dans ces manifs, j'ai aussi aperçu des copains-copines qui luttent depuis toujours contre le flicage étatique, mais qui se sont fourvoyés dans ce grand gloubi-boulga anti-pass anti-vax infecté par l'extrême droite. Alors bien sûr, les gens ont raison d'être furieux contre les gouvernants qui sont en dessous de tout depuis le début de la crise sanitaire. Le pouvoir a commencé par nous dire que les masques ne servaient à rien, et puis qu'il fallait en mettre, mais il n'y en avait pas. Et puis on nous a dit qu'on pouvait aller choper la Covid dans les magasins de bricolage, mais pas dans les librairies. On pouvait plus aller en festival, mais au Puy du Fou, c'était possible. Enfin bon bref, si certains se sont perdus, affolés, furieux, c'est bien la faute du gouvernement. On a raison d'être en colère, mais comme certains n'ont plus de grille de lecture de la société, plus de riches, plus de pauvres, plus d'exploiteurs, plus d'exploités, aussi il y a vaguement des vilains milliardaires qui flottent dans la stratosphère, mais surtout pas de système capitaliste, oh là là, cette révolte-là, on la laisse aux vilains rouges. Mais en plus de la percée fasciste de cet été, ce que j'ai trouvé le plus pénible, c'est d'entendre des gens que j'estime, que je sais intelligents, s'improviser médecins et dire des conneries monumentales. Des amis, copains, surtout des copines d'ailleurs, m'ont fait d'affligeants coming out anti-vax. Alors la Covid serait une invention médiatique. Il y a plein de gens qui sont morts, mais pas de ça. Le virus se soignerait à l'argile verte. Et puis ceux qui ont plein d'anticorps n'ont pas besoin de vaccin. Et puis alors surtout, le fameux « on n'a pas de recul ». Une copine à qui je demandais pourquoi elle voulait pas se vacciner m'a répondu
« parce que je le sens pas ».
Oui, mais je le sens pas. C'est pas un argument, ça.
Ben si, parce que quand je me tripote les chakras en faisant du yoga sur des mandalas, eh ben je le sens pas, parce qu'on n'a pas de recul. Alors moi, je me vaccine pas parce que c'est ma liberté de contaminer les autres.
Je vous avoue que j'ai connu de ces moments de colère où je me disais qu'on ferait bien de respecter la liberté de contaminer les autres jusqu'au bout, en laissant crever à la porte de l'hôpital public les malades du Covid qui n'ont pas voulu se vacciner. Respectons leur liberté, après tout. Mais un peu ras-le-bol de payer des impôts pour sauver des cons d'individualistes qui se croient hors société et qui nous menacent de nous envoyer à nouveau en prison chez nous. Entendre des gens intelligents se vautrer dans l'irrationnel, je trouve ça terrifiant. On en parlait avec Daniel, petit bêtisier. Ce qui m'a particulièrement terrifié, en fait, c'est d'entendre des gens que je sais intelligents, qui d'ailleurs font parfois partie de mes copains, de mes amis, de mes proches, qui sont diplômés, qui ont des livres dans la bibliothèque, qui ont un cœur et un cerveau en état de marche, dire des conneries. Qu'un imbécile dise des sottises, c'est normal, c'est un con. Là, par exemple, l'autre jour, quelqu'un m'a soutenu que depuis que sa sœur s'est fait vacciner, eh bien, elle aimante les pièces de monnaie et son téléphone portable se colle au bout de ses doigts. Bon, ça m'a fait rigoler. Alors, je lui ai dit, tu vas m'envoyer ta sœur. J'ai perdu les clés de ma voiture dans mon canapé. Ta sœur va venir faire la position des mains sur mon canapé et je vais retrouver mes clés de bagnole. Bon... Trêve de plaisanterie, des copains de Belgique et d'Espagne m'ont appelé, m'ont demandé « Mais qu'est-ce que vous avez en France avec les antivax ?» En Belgique, les vaccins sont disponibles, les gens vont se faire vacciner, c'est tout. Et en Espagne, pareil. Sachez-le, l'Europe entière nous regarde complètement médusée par notre comportement d'enfant capricieux auquel tout est dû, même quand on n'a pas de recul. Alors même si le vaccin n'est pas une solution idéale qui d'ailleurs n'existe pas, au moins on n'est plus en train de flipper, emprisonner et confiner chez nous. On va donc causer de tout ça avec les copains profs d'histoire géo, au programme de cette émission Antipass, mais pas Antivax. André évoquera la légitime colère contre le pass sanitaire et la très explicable épidémie d'irrationalité qui frappe les antivax. Philippe nous parlera de ces zozos qui n'ont jamais ouvert un bouquin de médecine, mais qui savent tout sur cette épidémie. Et Daniel fera quant à lui un peu d'histoire et d'étymologie autour du mot « épidémie ». Et puis ça va bientôt faire 30 ans que cette émission dénonce les flicages de toutes sortes. Et il est bien évident que l'actuel passe sanitaire nous inquiète. On en parle tout de suite avec Cédric. Salut Cédric.
Salut.
Dans le monde diplomatique de septembre 2021, de l'antiterrorisme à la pandémie de Covid-19, le prétexte des circonstances exceptionnelles. Passe sanitaire et impasse des libertés. Un article de Raphaël Kempf, qui est avocat et notamment auteur d'Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes. La massification des moyens d'expression numérique s'est accompagnée en France d'une multiplication de lois qui restreignent la liberté d'expression, comme si cette dernière était réservée aux classes cultivées. Cette disposition liberticide du législateur s'observe également dans l'état d'urgence sanitaire et les dispositifs de lutte contre la pandémie. Elle s'inscrit dans une tendance longue et accessoirement elle apporte de l'eau au moulin des antipass et aussi des antivax.
Donc c'est tout cet aspect à la fois contradictoire. On a pu souligner effectivement toutes les nuances que l'on peut apporter à une opposition, à ces processus de contrôle. Mais là, l'auteur, effectivement, il nous invite à réfléchir et à mettre en perspective longue ces questions. Effectivement, il met d'abord le doigt sur une contradiction entre la croissance des moyens d'expression, notamment via Internet, et d'autre part, la multiplication de lois qui restreignent la liberté d'expression, et en disant que d'abord elles ont été liées à l'état d'urgence, ensuite à l'état d'urgence sanitaire. Et donc il nous invite à une réflexion sur le temps moyen et le temps long pour observer effectivement les restrictions de plus en plus sévères apportées à cette liberté d'expression. Il évoque la question du pass sanitaire et pose une question que je crois beaucoup de monde s'est posée, même si on n'est pas là le samedi à manifester, etc. C'est que là, on voit la multiplication des contrôles permettant de vérifier l'identité par des personnes non habilitées par l'État.
Qui parfois ne sont même pas vaccinées elles-mêmes. Rappelons par exemple que les policiers n'ont pas d'injonction à se faire vacciner.
Et justement, là, il y a des contradictions qui semblent assez importantes, parce que nous, à l'Éducation nationale, le protocole sanitaire précise que, en théorie, si un élève est malade du Covid dans la classe, les élèves non vaccinés de la classe doivent rester chez eux. Sauf que à la réunion pré-entrée, on a demandé, mais nous on veut bien, mais faut-il qu'on sache qui est vacciné et qui ne l'est pas? Le proviseur nous a répondu, ah mais vous n'avez pas le droit de le demander. On peut comprendre que nous on n'est pas à le savoir, mais vous, en tant qu'administration, vous devez le savoir pour pouvoir sortir les élèves concernés. Ah non, on n'a pas le droit de le demander, c'est que l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé. Et donc on s'est posé la question, parce que le temps que l'élève, on sache qu'il est le Covid, le temps de prévenir l'ARS, que l'ARS fasse l'enquête dans la classe pour savoir qui est vacciné et qui ne l'est pas, pour ensuite exclure les gamins, je pense que la chaîne administrative assez longue rendrait totalement inopérante la démarche. Donc de fait, aucune classe ne ferme chez nous, parce que bah, de toute façon, même si un gamin était malade du Covid, le temps qu'on mette en place la mesure, ça serait inopérant. Donc un garçon de café a le droit de vous demander un pass sanitaire, mais à l'éducation nationale, non. C'est un petit peu étrange que nous, on est agent habilité par l'État, on n'ait pas le droit de le demander. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'incohérences qui se conjuguent à cette multiplication de contrôles par des personnes qui, normalement, n'ont pas à vous demander qui vous êtes, quand vous êtes né, etc.
Il faudrait autoriser les profs à servir des cafés aux élèves en cours.
Donc, ces mesures ont cristallisé de nombreux mécontentements avec des manifestations aux contours et aux motivations floues, effectivement, où se mélangeaient hein, anti-vax, anti-pass, anti-un peu près tout, sous prétexte, effectivement, de s'attaquer au pouvoir de M. Macron. Alors, le pass sanitaire est né par un amendement gouvernemental daté du 3 mai 2021, lors d'un débat portant sur le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire. La limite qui était notée donc dans cet amendement gouvernemental précisait, je cite, que l'usage en était limité au grand rassemblement de personnes. Et le gouvernement promet alors qu'il ne saurait être étendu aux activités du quotidien, telles que faire ses courses, aller au travail ou encore, pour ne citer que ces exemples, se rendre dans un service public. Or, qu'est-ce que l'on voit? Cette promesse a été tout de suite bafouée. Au bout de 2 mois, on a vu le pass sanitaire s'étendre à faire ses courses, des activités du quotidien, etc. Donc, quand un pouvoir politique dit quelque chose et le renie 2 mois après, ça peut susciter un certain nombre d'inquiétudes ou du moins d'interrogations. Alors, ces atteintes à la liberté ont tendance à se multiplier avec la crise sanitaire, les déplacements dérogatoires, les couvre-feux, qui ont été dénoncés. Donc le Conseil constitutionnel a dénoncé ces atteintes à la liberté de mouvement, mais les sages ont dit que ces atteintes étaient justifiées et tout compte fait conforme à la Constitution en relation avec une situation sanitaire très particulière et donc que l'on pouvait, pour un temps limité, faire une exception. Donc, au-delà de ces mesures liées à la crise sanitaire, un agent de police peut désormais contrôler un individu sans motif, alors qu'avant, il fallait qu'il ait un comportement suspect, laissant à penser qu'il a commis une infraction ou qu'il est en passe d'en commettre une. Donc on voit que ce renforcement du contrôle, en fait, s'est accéléré, notamment, alors là, vous voyez, on remonte un peu dans le temps, avec la loi Pasqua de 1993. Avant 1993, il fallait savoir qu'il fallait l'accord d'un procureur de la République pour procéder à des contrôles dans un temps et un espace définis. Et là, on a vu un accroissement, effectivement, des possibilités de contrôle par la police. Et ensuite, on voit bien que là, il y a un renforcement du contrôle policier sur les mouvements et les déplacements des individus. Ainsi, entre mars 2020 et avril 2021, 2,2 millions d'amendes ont été dressées pour déplacement illégal. Alors, bien sûr, si l'on remonte dans le temps, ça s'inscrit aussi dans les démarches qui ont été entreprises afin de limiter, je cite, les risques terroristes. La loi de sécurité quotidienne permettant de contrôler les citoyens, d'organiser des fouilles systématiques des affaires personnelles et des véhicules avait été mise en place après les attentats du 11 septembre. Je cite le ministre de l'époque, qui s'appelait M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui disait « J'espère que nous pourrons revenir à la légalité républicaine avant la fin 2003 ». Donc il concevait ces mesures comme des mesures d'exception liées à un climat terroriste très particulier après les attentats du 11 septembre où effectivement il y avait une peur de la population générale. Mais attention, c'est pas un bolchevique qui s'exprime, hein, c'est un sénateur socialiste, porteur du projet. Et quand il dit « j'espère que nous pourrons revenir à la légalité républicaine », c'est-à-dire qu'on en sortait de la légalité républicaine. Par ces mesures d'exception, on répondait à une urgence, mais on allait revenir à la situation normale il disait avant la fin 2003. Sauf que on sait la suite, c'est que ces mesures-là sont toujours actives. Alors, ces mesures ont été jamais dédites, voire elles ont été renforcées, notamment après les attentats du 13 novembre 2015, qui a mis en place l'état d'urgence, qui permet aux policiers de déclencher des perquisitions sur simple soupçon, donc sans que ça ne s'appuie sur un quelconque acte délictueux. On voit donc là, pour l'auteur, des dérives face à une menace où la population est identifiée comme hostile et profondément suspecte, a priori. Donc, on voit bien qu'on assiste à un grignotage des libertés. Ainsi, petit à petit, les mesures s'étendent à des secteurs où ils n'étaient pas prévus originellement. Ainsi, un décret du 19 juillet 2021 a étendu le pass sanitaire aux lieux de loisirs de moins de 50 personnes. On est très loin des grands rassemblements. Donc, on voit là que la baisse du seuil normalement réservé aux grands rassemblements, ça pose un problème d'où on s'arrête. Dans le temps, dans l'espace, dans les limites définies. D'autant plus que ce décret a été validé par le Conseil d'État au nom de, je cite, « des circonstances exceptionnelles ». Donc, circonstances exceptionnelles liées à la sécurité vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis des problèmes sanitaires. Sauf que la menace terroriste, on le sait, ad vitam aeternam, la crise sanitaire, à quand le Covid 22, 23, 24, qui fasse qu'on vive dans un pays, en théorie démocratique, mais où les libertés publiques de déplacement sont progressivement rognées par l'autorité politique. Alors, au-delà des mesures législatives, de voir aussi les nouveaux moyens de surveillance qui sont mis en place. Ainsi, pendant les périodes de confinement sévères que nous avons connues suite à la première vague de coronavirus, à Nice et à Paris, des drones ont été déployés pour surveiller les déplacements des populations. Ça s'avère particulièrement inutile car un drone ne peut pas vérifier si vous disposiez d'une attestation de déplacement dérogatoire liée à votre profession, etc. Ou bien, vous savez, on avait un kilomètre et une heure pour circuler. Donc ça, il ne peut pas le vérifier, le drone. Donc on voit bien qu'ici, le but n'est pas l'efficacité pour faire appliquer une règle qu'on peut juger justifiée vis-à-vis d'un moment de crise particulier. Non, le but, c'est de symboliser cette toute-puissance de l'État capable d'imposer aux citoyens des normes et des règles. D'ailleurs, l'usage de ces drones a été jugé illégal par le Conseil d'État à deux reprises, le 18 mai et le 22 décembre 2020, sans pour autant que l'usage des drones soit suspendu. Donc on voit que cet usage de drones est parfaitement illégal, puisque le Conseil d'État l'a jugé comme tel, mais ça n'empêche pas les mairies de continuer à l'utiliser. A posteriori, le gouvernement a tenté de légaliser ces drones dans une loi dite de sécurité globale qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc on voit que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel restent les deux dernières entités qui appliquent strictement le droit et qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de débordement de la part d'un gouvernement qui n'est pas un gouvernement fasciste. Mais j'allais dire, c'est encore pire. Un gouvernement démocratiquement élu, avec des personnes, on en pense ce que l'on veut, voilà, on sait ici ce qu'on pense de M. Macron et de son gouvernement, mais on ne peut pas dire que ce soit un fasciste. Sauf que il pousse à une certaine accommodation avec des exceptions qui deviennent la règle et qui aboutissent à une diminution des libertés publiques. Alors, comparaison n'est pas raison, mais historiquement, on a ça dans l'histoire. Des gouvernements républicains, démocratiquement élus, qui prennent des mesures d'exception vis-à-vis d'un certain nombre de groupes jugés menaçants, et qui fait que, en temps de paix, il y a des menaces. Les nazis dehors, la cinquième colonne, etc. On va prendre contre des populations spécifiques et contre ensuite l'ensemble de la population des mesures visant à restreindre leur liberté. Si bien que l'administration, en fait, s'accoutume à ces pratiques-là. Et donc, lorsque l'on bascule dans un régime fasciste, Pétain et demain Zemmour, quand on bascule dans un régime fasciste, l'administration, ça ne lui pose pas trop de soucis, parce que tout compte fait, elle l'a déjà fait. Donc, elle ne se pose pas la question, mon Dieu, moralement, est-ce que je fais, est-ce que c'est une atteinte aux libertés, etc. Non, pourquoi ? Parce qu'elle le fait déjà depuis des dizaines d'années. C'est ce qu'on appelle l'accommodement, qui avait été dénoncé dans les années 30 vis-à-vis des décrets-lois d'Aladier, etc. Et tout compte fait, l'auteur, alors il ne le dit pas clairement, c'est moi qui le rajoute, c'est dire que on s'habitue à une baisse de nos libertés. Et ça, c'est dangereux.
1984. Le maréchal Pétain parle à la France.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte. 1984. Croyez-moi, Le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose.
La suite de cette spéciale Diplo, c'est avec André qui comprend bien la colère et le désarroi des antivax. Salut André.
Bonjour les auditeurs fidèles. Que nous disent les manifestations de cet été qui ont réuni pas mal de monde, en fin de compte, hein, cumulé, ça fait quand même quelques centaines de milliers de personnes. J'éviterai tout jugement péremptoire, moralisateur ou toute forme de leçon. Les leçons, les citoyens en reçoivent tous les jours de ceux qui les gouvernent et des grands médias. Et ces deux sont fort mal placés pour en donner. De plus, ces manifestations sont difficiles à analyser, tant les participants venaient d'horizons idéologiques très différents. Si on peut parler d'idéologie dans la motivation de ces manifestants.
Écoute, en revenant du marché aux fleurs, j'en ai croisé une, ça devait être la deuxième ou troisième. C'était un hallucinant défilé de carpes et de lapins. Avaient réussi à en prendre la tête quelques copains communistes libertaires et gilets jaunes, pas de droite. Et ces copains-là, je les connais depuis 40 ans. Je sais qu'ils ont toujours lutté contre le flicage et j'ai très bien compris ce qu'ils faisaient dans cette manifestation. Ils dénonçaient ce passe dégueulasse que Macron a balancé à la gueule des gens de manière fort peu pédagogique, très autoritaire et stupide. Mais derrière les copains gilets jaunes et communistes libertaires, il y avait un énorme drapeau à fleur de lys avec des gens à cheveux très ras, avec des bonnes gueules de manif pour tous, machin, et le défilé était clos par des espèces de complotistos délirants, là, hallucinants. Et moi, j'ai dit aux copains qui m'ont dit, bah, tu viens pas manifester avec nous? J'ai dit, non, je comprends très bien que vous manifestiez contre le flicage, encore que vous soyez, pour la plupart d'entre vous, possesseurs d'une carte bleue, d'un compte Facebook et d'un téléphone portable. Enfin bon, je comprends très bien votre présence dans ce cortège, mais je pense que c'est de la bouillasse et qu'il n'y a aucun sens qui n'en ressort.
Oui, comment analyser la présence des gens, ce qu'ils veulent dire, etc. D'autant que ces manifestations ont été manipulées dès le départ par soit une extrême droite qui est totalement cynique. Hein. Là-dedans, il s'agit simplement de s'affirmer, de faire du bordel, exactement comme l'extrême droite qui noyote les supporters des équipes de football, etc. C'est la même chose. Quant à l'extrême gauche, une certaine extrême gauche qui a participé, je pense qu'ils ont eu grand tort quand même de manifester. Bien sûr, l'envie de manifester, elle est patente chez nous, etc. Mais manifester pour manifester, sans se préoccuper de la clarté des slogans. On manifeste avec des gens qui vont vous foutre sur la gueule, de toute façon, etc. Et puis, ça part d'un individualisme assez forcené la plupart du temps et d'une absence de solution collective chez ces gens-là. Donc, c'est difficile d'attribuer ces manifestations ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. C'est un petit peu comme les gilets jaunes. J'ai soutenu les gilets jaunes parce que, franchement, l'exaspération populaire à l'égard de la politique gouvernementale était tout à fait légitime. Mais la grande faiblesse de ces mouvements, c'est de ne pas avoir su formuler un programme, une ligne politique, des revendications précises. Et c'est la même chose pour ces manifestations. Là, quelles sont les manifestations? Alors, il y en a des très contestables, et puis il y en a de légitimes. Alors, comment faire la part des choses? Bon, il faut distinguer d'abord, hein, anti-vaccin et anti-pass sanitaire. C'est pas la même chose, ni dans la formulation, ni même les gens qui portent ça. Réglons tout de suite le côté anti-pass. On peut comprendre le ras-le-bol de cette énième tentative du pouvoir de contrôler entièrement les citoyens dans toutes leurs activités. À quand le code-barre tatoué sur les gens, comme dans le film américain Idiocratie, là, où ils ont tous un code-barre derrière la nuque, hein, comme ça on peut savoir exactement où ils sont, ce qu'ils font, etc. Pour moi, qui voyais tous les jours le numéro matricule sur le bras de mon père, qui était tatoué à Auschwitz, hein, ces QR codes, ça a quand même des allures assez inquiétantes, quoi, assez sinistres, quoi. Tout le monde son QR code, quoi, pour savoir si t'es rentré, si t'es pas rentré, ce que t'as fait. Cela dit, faut pas trop se laisser aller à un sentimentalisme ou à bon marché, parce que remarquons que le flicage complet des citoyens, il est déjà réalisé. ces gens qui manifestent contre un QR code sanitaire, ils sont déjà fliqués, complètement fliqués. Grâce aux téléphones portables, aux ordinateurs, toutes les opérations qu'on peut réaliser grâce à avec votre carte bleue, avec votre carte Leroy Merlin, avec votre carte de sécurité sociale et même avec votre carte kangourou des nouvelles galeries, enfin, vous êtes fliqués, ils savent où ils sont. Vous louez une trottinette dans la rue, on sait plein de choses sur vous.
Et ce flicage, il a toujours existé. Tu nous as raconté à ce même micro, André, que ton père, Camille Lécole, a été arrêté par la police française, qui à l'époque était dotée d'autres technologies que celles d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que les flics, ils disposaient de quoi dans les années 30? De fiches cartonnées et de plumes sergent-major et d'encre violette. Bon, c'est un flicage qui faisait déjà des ravages. Donc l'inquiétude de cette upgrade technologique du flicage, évidemment, est tout à fait compréhensible. Mais bon, c'est pas un phénomène nouveau, le flicage des gens.
N'empêche qu'on est arrivé à un stade qui n'a jamais été atteint. On est arrivé à un stade totalitaire, complet, achevé. Les gens qui nous gouvernent ou qui nous vendent, qui nous dominent avec le pognon et le pouvoir, savent tout sur nous. Et imaginons que le système tourne à la dictature complète. Comment entrer dans la clandestinité dans un système comme ça? C'est très difficile. Toutes ces données très personnelles sont stockées. En même temps que toutes les autres, dans d'immenses centres de stockage gigantesques qui font des centaines d'hectares. Je vous renvoie à la dernière livraison du Monde Diplomatique. On montre que ce numérique est une source de pollution gigantesque, majeure actuellement. Tous ces milliards de données cohabitent. Des choses scientifiques, l'effet de quenching dans le sélénium amorphe, les œuvres complètes de Marguerite Duras, et même les photos de petits chats que vous avez fait la semaine dernière. Ces milliards de données sont accumulées. Et servent à fliquer, bien évidemment, et servent aussi à vendre aux gens, à servent à les manipuler. Vous êtes manipulés. Ces données sont échangées, sans que nous le sachions d'ailleurs, hein, entre marchands de bagnoles, de couches-culottes, hommes politiques, etc., médias, etc. Toutes ces données circulent. Vous êtes fliqués, et il y a plein de gens qui savent où vous mangez, comment vous consommez, ce que vous achetez comme vêtements, etc. Et comment vous votez, etc., etc., etc. Personne n'y échappe, même les hommes politiques. Bon, on a vu l'affaire Snowden, etc. Bon, à moins de vivre dans les bois. Et encore, les satellites espions ont une résolution extrêmement précise. Je sais plus, ça se compte en centimètres. Hein, on peut vous repérer n'importe où. C'est assez précis pour repérer deux survivalistes en train de copuler dans un fourré de la taïga.
Ce n'est que volontairement que les gens prennent des cartes bleues, des téléphones portables et des comptes Facebook. C'est un flicage choisi. Ah mais là, ce qui est insupportable, c'est que c'est un flicage qu'on leur impose.
Oui, alors je sens toute l'ironie de ton propos. Effectivement, les gens ont l'impression, comme c'est eux qui envoient leur message à la con hein, sur leur machin numérique, bah, puisque c'est moi qui échange ma vie privée, c'est pas gênant. Mais le flicage est là quand même. C'est le résultat qui compte. On sait vous situer. On sait exactement ce que vous êtes, ce que vous faites, etc. C'est 1984 en pire. Ça rappelle le génial ouvrage de Orwell. Dans les années 30, je vous rappelle George Orwell, dans cet ouvrage qui s'appelle 1984. C'est un Anglais, Orwell, un homme de gauche. Hein. Il a participé à la guerre civile espagnole. Je crois qu'il était trotskiste, mais enfin, c'était un homme à l'extrême gauche. Il imagine une société de contrôle et de manipulation des individus par Big Brother, le grand frère. Orwell y met dans son roman tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque de procédés de suggestion mentale, etc., appuyés par les techniques connues à cette époque. Ces techniques étaient déjà utilisées partiellement par les régimes totalitaires, en tout cas par le régime nazi et même par le régime soviétique pour certaines de ces manifestations. Une fois le régime nazi vaincu, l'ouvrage a abondamment été utilisé d'ailleurs pour stigmatiser l'URSS, le totalitarisme. Il a été très utilisé comme Hannah Arendt, le vilain totalitarisme qui risque de submerger le monde, qui risque de nous transformer en individus complètement dominés, etc., etc. Une fois le régime soviétique aboli, qui aurait pu prévoir que les pires prédictions d'Orwell seraient réalisées par le système capitaliste libéral de démocratie, de marché, etc., qui s'était toujours présenté comme le modèle indépassable, seul capable d'assurer la liberté des individus? Bon, personne, évidemment, hein, un train peut en cacher un autre, hein, attention au totalitarisme russe, etc., et poum, on a le totalitarisme informatique américain. Bon, bien fait. Vous aviez qu'à vous méfier. Sex crime. Passons maintenant aux manifestations anti-vaccins. Là, ça a atteint des choses encore beaucoup plus irrationnelles encore. Tout en restant minoritaire en métropole, le mouvement a quand même concerné beaucoup de monde.
Et continue, hein. Au moment où on parle, là, c'est-à-dire 1er octobre 2021, il semblerait que 82% des Français aient été vaccinés. Ça en laisse quand même une bonne frange qui ne le sont pas.
Bien sûr, je me pose la question, comment refuser la vaccination ? Bien sûr, on peut, il y a toutes sortes de raisons, d'objections qui ont été faites sur le côté rapidement fait du vaccin, des trucs comme ça, mais enfin, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. On aurait pu quand même déjà se pencher sur le problème concernant la vaccination sur la grippe. Vous savez que chaque année, on fait un vaccin sur les nouvelles souches de grippe qui apparaissent régulièrement en Asie, donc à l'avance, et on vaccine la population. Cette vaccination est efficace, on le sait, elle est constatée statistiquement. La vaccination protège, pas complètement, mais en grande partie, les populations vaccinées. D'ailleurs, cette vaccination est rendue gratuite pour toutes les personnes de plus de 65 ans. Elle n'est pas obligatoire, hein, mais on voudrait bien que cette vaccination soit généralisée, parce que, en fait, la grippe, elle peut atteindre des gens très jeunes, hein. Elle n'atteint pas que les vieillards, hein. Elle est fatale aux gens faibles. Mais elle atteint tout le monde. Et c'est une maladie grave, la grippe. Peut-être grippe, surtout si c'est un SRAS, une grippe avec des syndromes respiratoires aigus, etc. Enfin, il y a des grippes qui ont été extrêmement tragiques. Bien, malgré ça, beaucoup de gens ne se font pas vacciner contre la grippe et surtout ne se feraient pas vacciner contre la grippe, y compris, ah, moi j'ai discuté avec l'infirmière qui venait me faire des piqûres, ah bah non, ah bah je me fais pas vacciner. Pour le Covid non plus, bon. C'est curieux parce que quand j'étais enfant, moi, tout le monde était vacciné obligatoire contre la variole. Il n'y avait pas un seul enfant qui n'était pas vacciné contre la variole.
Est-ce qu'à l'époque, les parents glapissaient comme des putois ?
Non, c'était extrêmement rare, très très minoritaire. Les gens avaient une grande confiance dans les vaccins. On allait en colonie de vacances, on était vacciné. Le vaccin était considéré comme un moyen efficace et il l'était.
Et les vaccins se faisaient à l'école, hein ?
Oui. Moi, je me souviens, en randonnion, en maillot de corps, on avait un BCG.
Oui, je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, on recevait un vaccin TAB, typhoïde, AB, diphtérie, tétanie et antipolio dans le même vaccin. Boum, dans l'épaule.
Ça t'a pas empêché d'attraper le communisme.
Ah oui. Ah mais oui, mais mes parents ont négligé cette vaccination indispensable. Hein, ils auraient dû m'abonner au Figaro.
Je peux vous faire un aveu, c'est que 5 minutes après ma première injection, je me suis surpris à trouver Macron, en fait, plutôt sympathique sur certains. Ah bah ouais. Et au bout de 10 minutes, je commençais à me dire, mais c'est vrai qu'il fait pas que de la merde quand même, Macron. Non, je pense en fait que les antivax ont raison. Puis dès ma deuxième injection, je me suis dit, c'est sûr, en 2022, je fais barrage au fascisme. Jackie et Jessica m'avaient pourtant bien averti, hein, que c'était plein de nanotechnologie, ces trucs-là.
Alors, comment expliquer le doute actuel, bon, cette résistance d'une partie de la population, des citoyens, à la vaccination ? Moi, je crois pas qu'il faille chercher des raisons précises. On n'est pas dans le rationnel, mais on peut trouver des motifs. Les motifs qui ont amené ces gens-là à cette réaction anti-médicale, anti-scientifique, etc. Ils ont des motifs. Ils n'ont pas de raison, ils ont des motifs. Prenons le cas des Antilles, une population très peu vaccinée qui a résisté à la vaccination beaucoup. Pendant plus de 30 ans, les bananes ont été traitées au chlordécone. On a empoisonné le pays, la terre, les populations, sans rien leur dire. C'était chlordécone, c'était un truc scientifique, enfin, c'était un truc formidable, etc. Et on les a empoisonnés. Bon, quand ils se sont aperçus, ça les a un peu mis en colère, en quelque sorte. Prenons la Polynésie. Les essais nucléaires dans l'atoll de Mururoa ont provoqué de très nombreux cancers. Et ont affecté la santé de la population polynésienne, c'est clair. On leur a seulement dit au bout de 30 ans, hein, et encore, on ne veut pas vraiment reconnaître la responsabilité des essais nucléaires dans l'état de santé de la population polynésienne. Eux aussi ont résisté à la vaccination. Eux aussi n'avaient pas confiance dans les autorités scientifiques et politiques françaises. Que peut être le sentiment de ces gens sur les merveilles de la science moderne ? Tout le monde n'a pas un doctorat de biologie en poche. Hein, bon, en métropole même, les scandales concernant les médicaments Mediator, etc., où on a donné ça à des femmes qui voulaient maigrir et on les a tuées, quoi. On leur a donné des affections cardiaques mortelles. Certains laboratoires pharmaceutiques ont été éclaboussés par des scandales du même type, enfin bon. Et même l'organisme d'État chargé d'autoriser les médicaments en France a été mis en cause. Et on a vu qu'il y avait corruption de ces gens qui étaient des grands professeurs de laboratoires de pharmacie, etc. étaient eux-mêmes payés par les laboratoires. Comment faire confiance? Combien de victimes a fait l'amiante? Pendant des années, on a dit, mais non, il n'y a pas de danger, c'est rien, c'est inoffensif, etc. Il y a des milliers de victimes de l'amiante en France. Bon, prenons un autre exemple, les victimes des pesticides. Il y en a encore aujourd'hui, il y en aura encore demain, puisque notre grand Parlement européen est bien incapable, payé par les laboratoires, d'interdire le glyphosate, dont on sait que c'est un cancérigène. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Eh bien, le glyphosate est utilisé, est encore utilisé. Il y a des tonnes de glyphosate qui sont en stock et qui sont encore utilisés. Comment voulez-vous que le citoyen ordinaire, peu ou mal informé, fasse confiance dans la science, la médecine, les savants et ceux qui ont en charge la santé publique? Les gens n'ont pas confiance. Même quand ils sont vaccinés, ces gens-là ne font aucune confiance dans la parole des gens qui les représentent.
Pour parler de ma petite personne qui est très intéressante, j'ai le doute. Je me dis, ça se trouve, avec ces deux injections là, peut-être bientôt trois, on va peut-être tous déclencher des cancers dans 15 ans. Mais il y a ce truc aussi que nous, les enfants et les petits-enfants de l'après-guerre, qui habitons l'île aux enfants, eh ben on veut une vie sans risque. Hein, les risques, c'est bon pour les pouilleux qui traversent la Méditerranée sur des canots pneumatiques, c'est bon pour les gens du tiers-monde, etc. Mais nous, il faut qu'on nous garantisse contre tout, et surtout contre la vilaine nature. Vous remarquerez que des fois, vous avez des guerres qui tuent des centaines de milliers de personnes, ça n'indigne personne. Par contre, le tsunami, quel scandale! C'est la méchante nature, même quand elle est détraquée, qui a l'insolence de se rebeller contre l'humain. Alors que quand c'est les humains eux-mêmes qui créent des catastrophes, c'est finalement moralement tout à fait acceptable.
Mais j'ai une proposition politique. C'est une loi qui interdit les tsunamis, les tornades, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Voilà.
Ouais, et puis il faudra aussi une loi pour interdire les maladies et la mort aussi.
Il est comme facile d'ironiser, de se moquer des complotistes, des anti-vaccins, des survivalistes, etc. Mais il faut comprendre dans quel monde vivons-nous et quelles sont les informations qui parviennent aux gens, de façon très parcellaire d'ailleurs. 40 ans de capitalisme libéral, débridé, de recherche forcenée du profit, de soumission des chercheurs, de la médecine, des hôpitaux aux règles du marché, bah ça laisse des traces. Alors, c'est pas les médias qui vont débrouiller ce truc-là. Hein, les médias sont d'une médiocrité, quand ils ne sont pas malhonnêtes, ils sont extrêmement médiocres. Tout ça ébranle la confiance de beaucoup de contemporains dans la science et les progrès qu'on peut en attendre. C'est un recul de la raison. Tenez, je donne un autre exemple du recul de la raison. Alors, je ne mets pas dans le même sac tous les gens qui s'éloignent de la médecine traditionnelle, qui mangent bio en se méfiant systématiquement des aliments qu'on met à leur disposition. Je ne me moque pas non plus des gens qui préfèrent la médecine douce à une médecine plus brutale, etc. Les naturopathes, etc., ça c'est un grand développement. Alors là-dedans, dans les naturopathes, il y a de vrais escrocs, mais il y a aussi une quantité de gens très efficaces qui donnent des conseils de santé indispensables aux gens et qui sont de véritables auxiliaires de la médecine. Mais quand même, ça traduit le recul, l'éloignement des gens de la médecine traditionnelle. Avant, bon, le médecin, c'était un dieu, il avait parlé, c'était... Aujourd'hui, non, hein, il y a une méfiance généralisée à l'égard de la médecine. Bon, c'est pas bon pour nous, ça. Pour nous, c'est-à-dire les gens qui veulent une autre société, un autre destin collectif, un autre monde, parce que chacun se réfugie dans des solutions individuelles, dans une méfiance, dans un éloignement de toute solution collective. Et moi, je ne peux pas y adhérer à ces choses-là. Je pense qu'une certaine extrême gauche devrait utiliser des pincettes, hein, avant de s'engager dans ces mouvements irrationnels.
Je suis sur la terre, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je fais un mauvais sans en fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, le gésier anémié, l'estomac à bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'engastre, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traqué. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traqué. Ah mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien.
On poursuit cette spéciale grande bouillasse anti-vax avec Daniel et un peu d'étymologie autour du mot épidémie. Salut Daniel.
Salut à tous. Quel est le sens des mots? Et je pense à Camus qui disait « À nommer mal les choses, on accroît le malheur du monde ». Il a parfaitement raison. Épidémie. L'origine est grecque. Il y a une racine commune entre un certain nombre de mots que l'on connaît bien. Épidémie, démocratie, démographie. Quelle est la racine commune? C'est dem. Qu'est-ce que le dem? Le dem est une circonscription de la cité athénienne antique qui servait à recenser la population des citoyens. Progressivement, le dème, qui est une circonscription, s'est confondu en quelque sorte avec son contenu. Le contenant s'est confondu avec le contenu, c'est-à-dire la population de citoyens qui est à l'intérieur d'un certain espace géographiquement défini. De citoyens, c'est-à-dire ce que l'on va appeler le peuple. Épidémie. Épi, c'est ce qui est autour. Ce qui n'est pas dans le peuple, mais vient d'ailleurs, et s'abat sur lui. Donc l'épidémie, c'est quelque chose qui n'est pas dans le peuple, qui vient d'ailleurs et s'abat sur le peuple. Et c'est quoi? L'infection, la maladie qui vient d'ailleurs. D'où vient-elle? Des animaux. Les épidémies naissent avec l'ère néolithique, c'est-à-dire la proximité des populations humaines avec les animaux par l'élevage. Vraisemblablement, autant qu'on puisse le savoir, les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, etc., ne connaissaient pas d'épidémie. L'épidémie, elle est liée à la révolution agricole, à la sédentarisation des populations. Et on la voit présente, l'épidémie ou les épidémies, on la voit dénommée de manière très précoce par les mythologies. Il y en a deux que la plupart des citoyens européens connaissent. C'est la mythologie biblique et la mythologie grecque. Et je vais prendre un exemple dans l'un, un exemple dans l'autre. La mythologie biblique, c'est les plaies d'Égypte. Mais parmi les multiples plaies d'Égypte, il y a la mort des nouveau-nés, la mort des populations de la ville. Et évidemment, l'endroit où l'épidémie va encore mieux marcher, par proximité, là on parle de la distanciation sociale. La ville, c'est le rapprochement social. Et c'est, à l'époque de Moïse, comment la malédiction divine s'abat sur la population égyptienne, sur le pharaon lui-même, puisqu'il perd son fils par une épidémie. Deuxième exemple, c'est l'exemple grec, c'est Thèbes. La Thèbes grecque, c'est Œdipe. Œdipe, qui a commis le parricide sans le savoir, etc., et qui devient roi de Thèbes. Et Thèbes est frappé par l'épidémie. Généralement, c'est la peste. La peste, c'est sans doute un mot générique pour des épidémies, probablement d'origine qui ne sont pas exactement les mêmes. Pourquoi la peste s'abat sur Thèbes? Parce qu'elle a admis comme roi un homme parricide. Et Œdipe, qui a vaincu le sphinx en déchiffrant l'énigme, s'engage à sauver Thèbes de l'épidémie de peste. Mais pour sauver Thèbes de l'épidémie de peste, il va falloir que l'étrange, la terrible vérité apparaisse. La terrible vérité, c'est qu'il a tué son père et épousé sa mère. La peste, l'épidémie, est une malédiction divine. Et on va rejoindre ce problème de la vaccination, c'est-à-dire de cet irrationalisme qui fait que l'épidémie est un châtiment par rapport à une faute, à une culpabilité. Et que, au lieu de rentrer dans la rationalité des sciences et la rationalité médicale, on fuit la rationalité pour se soumettre à la pénitence.
Français, vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes.
Historiquement, les épidémies ont fonctionné là-dessus et ont modifié de manière radicale les sociétés qu'elles ont concernées. La fameuse peste noire du XIVe siècle, qui ravage à peu près la moitié de la population européenne. Alors, dans les sociétés traditionnelles, le seul moyen de sortir des épidémies, c'est de lui laisser faire sa moisson mortelle. Le deuxième exemple que je prendrais, c'est la fameuse grippe espagnole, qui n'est pas du tout espagnole. D'ailleurs, elle est apportée en France par l'armée des États-Unis.
La fameuse grippe espagnole qui n'était pas espagnole, elle se déclenche dès 1918, ça dure 2-3 ans et ça fait bien 50 millions de morts.
Les chiffres sont même parfois plus élevés. Mais en tous les cas, c'est plus de morts que de la guerre. Elle arrive par nos alliés américains. Alors pourquoi l'appelle-t-on grippe espagnole?
Parce qu'à l'époque, il n'y a que la presse espagnole qui en a parlé.
Évidemment, dans les pays en guerre, où l'armée américaine venait en renfort aux anglo-français contre l'Allemagne, on ne pouvait pas expliquer que ceux qui nous apportaient la mort, c'était nos alliés. Pourquoi dans la presse espagnole? L'Espagne n'était pas un pays belligérant. Donc il y avait une moindre censure sur ces... Et elle est espagnole parce que les journaux qui en parlent les premiers et le plus sont des journaux espagnols. Et comme disait Snowden, mais pas le Snowden d'aujourd'hui, un homme politique de l'époque... La première victime de la guerre, c'est la vérité. Ce sont nos alliés américains qui ont apporté la grippe espagnole en Europe. Oui, 60, certains disent 80 millions de morts. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas de vaccin. C'était des pays en guerre, des pays dans la misère, dans la famine, poursuivis parfois par des guerres civiles. Un terrain de jeu fabuleux pour une épidémie. Hein. On ne peut pas rêver mieux. Alors, on peut se demander d'ailleurs... Le général Pershing, le général en chef des troupes américaines, quelques années auparavant, lui et une partie de ses troupes avaient fait une autre guerre. La guerre contre les Moros aux Philippines, où la brillante armée de la démocratie américaine avait organisé un véritable génocide contre les Moros. Et on voit des photos, vous pouvez le trouver sur Internet, où on voit les soldats de Pershing brandir les têtes des Moros, alors c'est des musulmans philippins. Et ils brandissent les têtes, et les corps que l'on piétine, enfin c'est terrifiant. Alors il est possible d'ailleurs qu'elle soit originaire d'Asie, cette épidémie, et apportée par l'intermédiaire des États-Unis, par les troupes de Pershing. Et à chaque fois, les épidémies déclenchent la dissimulation, le mensonge et le scepticisme. Regardez aujourd'hui sur les origines de l'épidémie, la Chine, le laboratoire de Wuhan, etc. Le virus fabriqué, le virus pas fabriqué, etc. J'ai aucune conviction là-dessus, je n'en sais rien.
Tu ne crois pas que c'est un savant fou qui a tripoté un pangolin dans un bunker secret?
Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais dans les derniers mois, il y a deux choses qui m'ont frappé. Un, Saint Biden a déclaré que les services secrets américains allaient faire une enquête ultra sérieuse pour déterminer l'origine des virus. Très bien, il organise la nouvelle guerre froide contre la Chine, il a donné un délai de 3 mois pour une enquête aussi difficile, donc je me suis dit, je pense que les services secrets américains ont bien compris le message, c'est la faute des Chinois. Publication du rapport de la CIA à la NSA, eh bien c'est pas ça. Ils en concluent au fait qu'ils savent pas. La NSA et les CIA seraient peut-être des organismes sérieux. Je lis dans un journal qui n'est pas réputé anti-américain et pro-chinois, journal que j'appelle un torchon d'habitude, Libération. L'information, c'est que le laboratoire de Wuhan, alors on savait qu'il était financé par la France, mais il est également financé par les États-Unis et non pas par des firmes privées, mais par des fonds fédéraux des États-Unis. Aïe, 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 je me suis dit, mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Alors je dis peut-être, mais je n'en sais rien. Mais on voit comment, face aux épidémies, l'obscurantisme ou les divinités interviennent toujours.
Dernière ligne droite de cette émission, c'est avec la remarque sur les médias de notre ami Philippe Arnaud qui évoque aujourd'hui les crétins qui se croient médecins sans jamais avoir ouvert un bouquin de médecine. Salut Philippe.
Bonjour. Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
Vaccino-scepticisme dans l'ascenseur.
C'est quelque chose que je n'ai pas tiré du diplôme papier, mais du diplôme site, par quelqu'un qui écrit très souvent dans le diplôme, Alain Garrigou, sociologue. Bon, voilà ce qu'il dit. À la fin d'un colloque récent, marquant une sortie timide de l'ère des visioconférences, nous prîmes un ascenseur pour remonter à la surface d'une station de métro. Dans la cabine, une dame d'une cinquantaine d'années nous avisa qu'elle mettait son masque pour nous. Je lui rétorquai que nous étions tous vaccinés. La dame déclara immédiatement son hostilité à la vaccination. « Mais alors, lui dis-je, c'est vous qui prenez des risques ici ?» vous devriez vous faire vacciner pour votre bien. Et j'ajoutais ce gros mensonge, que j'étais immunologue. Avec quel vaccin, me testa-t-elle. Je lui donnais la liste des vaccins disponibles en biologie, en l'assurant que n'importe quel ferait l'affaire. La dame appela du renfort, sa fille était étudiante en biologie. Tout sourire, je hasardais qu'elle assistait peut-être à mes cours. Arrivée dans la rue, la dame tourna les talons, furieuse. Mes collègues riaient de l'imposture. Les médecins reçoivent aussi des patients qui leur expliquent leur méfiance à l'égard des médecins et de la médecine et vérifient leurs prescriptions dans les revues médicales en ligne. Depuis quelques années, la propension à contester les verdicts scientifiques dans les médias sur les réseaux sociaux est générale. Mais ce sont moins des contre-propositions ou des réfutations radicales que des mises en doute. On n'est pas sûr, entre guillemets, pas encore sûr, entre guillemets. Les spécialistes ne sont pas tous d'accord, entre guillemets. Il faut prendre son temps pour juger. Conviction d'amateur qui s'applique à tout. Après les climato-sceptiques, les vaccino-sceptiques. C'est devenu une manière de penser, quel que soit le sujet, contre le port du masque, puis contre les tests PCR, puis contre le vaccin. Ce doute cache souvent une hostilité de principe. Ce n'est pas du vaccino-scepticisme, c'est plutôt de la vaccinophobie. On peut d'ailleurs envisager l'attitude positivement quand elle dénote une disposition à ne pas croire tout sur parole. Il faut un certain aplomb à des non-professionnels pour discuter comme d'égal à égal avec des spécialistes qui ont fait ça pendant des années, voire des décennies. Car les sceptiques confondent souvent le doute sceptique, c'est-à-dire le leur, et le doute méthodique, celui des chercheurs. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à se réclamer de certains chercheurs dissidents, rares et en rupture, qui se révoltent contre le manque de reconnaissance dont ils s'estiment les victimes. Ils trouvent une occasion de briller à la lumière médiatique ou basculent parce que leurs croyances religieuses les ont mis de plus en plus en contradiction avec le rationalisme scientifique. La pandémie de Covid-19 est une chance de gloire, comme l'ont montré les nombreuses nouvelles figures de plateau. En attendant un rapide oubli, elles servent de caution aux sceptiques qui contestent les verdicts scientifiques sous prétexte de non-unanimité. Sourds à tous ceux qui leur répètent que l'unanimité n'existe pas, même en matière scientifique, où la vérité est gérée par un consensus large et raisonnable. Les sceptiques ne récusent pas toute science, mais exhibent au contraire un certain savoir. Ils ont lu, ils sont curieux, et dans la discussion prennent parfois en défaut leur interlocuteur par des questions sur les vaccins, le nom d'un médicament, comme pour attester qu'ils savent. Richard Hogarth, sociologue, manifestement agacé, en dressait un portrait cruel dans le personnage des autodidactes qui en savent juste assez sur les sciences de l'homme, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie sociale, pour intervenir avec scepticisme sur n'importe quel sujet. Depuis lors, les domaines de simili-compétences se sont considérablement agrandis. Ce sont les enfants perdus d'un monde qui regorge d'informations fragmentaires et vulgarisées et où ne s'impose aucun groupement privilégié des connaissances. Les sceptiques sont souvent activistes. Sur les réseaux sociaux, ils invoquent les articles de presse ou les interviews de spécialistes qui vont dans leur sens. Les spécialistes les moins légitimes dans l'ordre scientifique sont ainsi surreprésentés sur les réseaux, à moins que l'autorité soit plus proche. Chacun dispose d'un parent, comme une étudiante en biologie, d'un ami, d'un voisin même, enfin quelqu'un qui sait ou connaît lui-même, ou un ami ou quelqu'un d'autre qui sait. J'ai un exemple personnellement de quelqu'un qui me dit « Mon gendre est un grand chercheur » et il me dit que tout ce qu'on dit sur le...
J'ai eu droit à la même. Mon père qui est médecin, on m'a raconté qu'une infirmière que mon beau-frère connaît, etc. etc.
Oui. Donc, si ces attitudes méritent le terme de scepticisme, c'est en repoussant les verdicts scientifiques à plus tard plutôt que de prétendre les infirmer définitivement. Gagner du temps une ficelle de l'irrationalisme contemporain. L'ultima ratio des sceptiques est leur liberté. Les intervenants y expriment donc des opinions et les opinions se discutent, car c'est démocratique. Les hésitations et tergiversations des autorités politiques contribuent bien à transformer l'attitude à adopter face à une pandémie en opinion, en se conformant à une idée de la démocratie dans laquelle toutes les opinions ont le droit de s'exprimer, et souvent sur le mode revendiqué de la parité. On n'est pas obligé de prendre à la lettre les motifs invoqués. Les individus se donnent toujours de bonnes raisons de faire ce qu'ils font et de penser ce qu'ils pensent. Le scepticisme ne peut prétendre être une fin ultime. Douter, d'accord, mais à titre provisoire. Il sera toujours temps de voir, semble dire le sceptique. En même temps, les sceptiques dévoilent un ressort, la peur. Vieille peur inavouable de la piqûre et sans doute peur sur les catastrophes annoncées, le réchauffement climatique, l'installation dans la pandémie. La réaction consiste à se retrancher dans la dénégation. Et pour ceux qui ont une culture d'autodidacte, comment ne pas s'appuyer sur ce type de connaissances et de rapport à la connaissance mi-initié, mi-néophyte, qui, à l'heure d'Internet, circule partout ? Ne pas se confronter aux interdictions, c'est évidemment ne pas se fier aux autorités en leur opposant sa liberté sur le mode du chacun pour soi, à charge pour les autres de faire les gestes qui se plient au but collectif. Rien de plus banal que de se défausser sur les autres des coûts de l'action collective, car tout le monde bénéficiera des bénéfices de cette action. Dans ce paradoxe, le chacun pour soi, le cavalier seul, le passager clandestin ont de fortes chances d'empêcher l'action collective qui serait profitable à tous. En l'occurrence, ce n'est pas d'action collective, mais d'immunité collective qu'il s'agit. Les États hésitent à contrecarrer cette logique du chacun pour soi, du passager clandestin, en repoussant l'obligation de vaccination. Mais ils obligent bien les gens à faire vacciner leurs nourrissons et à respecter le code de la route. Ils ont peur de s'aliéner les électeurs. Il faut, disent-ils, faire confiance à la pédagogie, il faut convaincre. Mais ont-ils vraiment confiance dans la sagesse des gouvernés ? Ils hésitent en tout cas entre la définition de la démocratie qui met au premier plan les libertés et celle qui met le bien public au-dessus des libertés individuelles. Le langage politicien aujourd'hui hésite à employer les termes de bien public ou d'intérêt général, hier si courant, hélas si souvent galvaudé, tandis qu'il est plus facile de penser la souveraineté personnelle, laquelle se traduit en chiffres dans le régime d'opinion. On aimerait que ce temps perdu ne se compte pas en souffrance et en mort supplémentaire.
Voilà les amis, c'est ici qu'on se quitte. On a mis presque un an et demi avant d'aborder ces histoires de Covid et toute la bêtise que ça engendre. Pas certain qu'on retraitera de ces sujets qui nous gonflent et sur lesquels on n'est pas forcément compétent. Comme je vous le disais plus tôt, quand on n'a rien à dire et qu'on n'y connaît rien, on la ferme. Cette émission est à réécouter sur notre site, polymixetlavoixoff.com, et on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, il y a du boulot. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 101.5 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Merci. Activez vos synapses. la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expertise.